Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Zep. Si le nom Zep ne vous dit rien, alors peut-être que Titeuf, le personnage dont il est le papa, vous sera plus familier. Ensemble, on parle bien sûr de la création de ce personnage, mais avant ça, de ce qui a amené Zep à se lancer dans la BD, d'un moment charnière dans sa carrière où il a refusé un job qui ne lui convenait pas alors qu'il était en galère de boulot, de l'impact de Titeuf sur les enfants, mais aussi de ses BD plus adultes et notamment cette BD géniale qui s'appelle Une histoire d'homme qu'il a sortie en 2013. Plus récemment, Happy Sex 2, 10 ans après le premier tome, où il dépeint la sexualité de façon décomplexée et très amusante. Il m'explique comment il en est venu à vouloir parler de sexualité aussi ouvertement et dans cette interview, on parle aussi de plein d'autres sujets. La religion, l'éducation sexuelle, aucun lien, la dichotomie entre enfants et adultes, sa fascination pour les histoires, bref, ce fut une interview enlevée et passionnante. J'espère que cet entretien vous plaira. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous, mettez une bonne note et un bon commentaire à ce podcast sur Apple Podcasts et je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Zep.
Merci beaucoup en tout cas d'être là. Je voulais reparler un petit peu avec toi de ton parcours. Là, tu sors ces jours-ci Happy Sex 2. Mm-hmm. 10 ans après 9 ans après le après,
10 ans,
10 ans après ans, le premier épisode de 2009 après le premier épisode, après le premier tome. Je trouve que t'as une capacité à parler de sexe qui est très ouverte et qui est très bienveillante et c'est hyper important, je pense, en 2019 de faire ça, de faire ce travail là et j'ai beaucoup aimé Happy Sex 2 d'une manière générale. J'aimerais bien savoir un petit peu, pour revenir un petit peu, à qui était Zep quand t'avais 7 ans.
Quand j'avais 7 ans, ouais. Il n'y a pas vraiment de rapport avec Happy Sex. Ouais. Mais bah, quand je suis né à la fin de l'année 67. Donc 7 ans, on est en 74.
C'est post 68, quoi.
C'est post 68, ouais.
Donc il y a un peu un rapport avec Happy Sex.
Il y a un rapport, oui, clairement, parce que c'est l'époque de la libération sexuelle. Mmh. Alors bon, à 7 ans, ça me touche pas de plein fouet. Mais par contre, c'est vrai que j'entendais en discours de fond, dans les films, dans les émissions à la télé, à la radio. Mes parents vivaient avec la radio allumée du matin au soir. Beaucoup de gens qui parlaient de ce sujet, de sexualité, de droit au plaisir, de droit à l'orgasme. Il y avait vraiment une volonté de libérer le sujet, de remettre la sexualité comme un objet de plaisir et non pas un devoir conjugal. Mmh. Et il y avait aussi un discours très fort sur l'égalité. C'est-à-dire que les femmes avaient le droit au plaisir, mon corps m'appartient, enfin ce genre de discours. Et pour moi, c'était la promesse de, même si je comprenais pas grand-chose, j'entendais que c'était quelque chose où les adultes avaient l'air de s'amuser et qui était plutôt cool, qui avait l'air d'être un terrain où on allait se retrouver hommes et femmes de manière sympa. On allait s'amuser. Ce qui n'était pas forcément évident, parce que quand on avait 7 ans, on s'amusait pas beaucoup avec les filles, les garçons d'un côté, les filles d'un autre. Je me disais, ah, c'est cool, en fait, il y a un moment où ça va être chouette. Et donc, pour moi, c'était un sujet. Alors, tout ce qui était puberté, transformation du corps, adolescence, c'était flippant. Mais la sexualité, au fond, ça semblait déjà assez lointain et plutôt la promesse de quelque chose de sympa. Et en fait, quand je suis arrivé à l'adolescence, ça a coïncidé avec l'arrivée du sida.
Oui, c'est vrai, t'avais quoi, t'avais 15, bah justement.
J'avais 15-16 ans quand le sida est arrivé. Donc tout à coup, le discours, en quelques mois, change complètement. Il y a une panique autour du sexe. Le sexe, c'est synonyme de mort. Il faut se protéger. Il faut faire très attention. On savait pas très, très bien, en plus, au début. Comment on attrapait le sida? On savait pas. On pensait qu'on pouvait l'attraper en embrassant quelqu'un. On pensait que même si on touchait la main de quelqu'un et qu'il avait eu de la salive dans sa main. Enfin, il y avait vraiment une peur. C'était une forme de peste qui tombait sur la société. Et du coup, tout ce discours de libération, de plaisir, de droit à l'orgasme, de tout ça, a été évacué au profit de cette urgence de prévenir et de se protéger du sida. Et du coup, je fais partie d'une génération, on nous a volé un peu un truc, parce qu'on est arrivé là, puis on s'est dit, ben merde, toute cette promesse pour finir, rien, quoi. C'est pas pour nous. et je pense que toute mon œuvre, si je puis dire, est traversée par cette idée de remettre la sexualité, que ce soit même dans Titeuf ou avec le guide du vie sexuelle, comme un sujet qui est plus léger, plus joyeux, plus happy, effectivement, quelque chose qui est que je crois profondément être le terrain de jeu qu'on a quand on est adulte, l'endroit où on peut se retrouver et s'amuser, en fait. Il y en a pas tant que ça quand on est adulte, un endroit où on peut s'inventer des rôles, imaginer des histoires, et que c'est assumé, c'est fait pour ça, en fait, c'est le terrain de fantaisie qui nous reste aussi.
C'est un truc qui est encore important pour toi aujourd'hui, d'avoir cette bulle, comme tu dis.
Bah, d'avoir une sexualité, oui.
Je parle en dehors de la sexualité.
Mais d'avoir... bon, moi, je fais un métier où j'invente des histoires toute l'année et je m'amuse. Donc, je peux pas dire que je suis sevré de cette partie-là. Je fais un métier qui est très en lien avec le plaisir du jeu et de l'enfance. Mais oui, je trouve que la sexualité, c'est quelque chose qui est dans notre société. On a du mal à en parler. On en parle, ça s'est beaucoup banalisé. On a beaucoup de pornographie. On est devenu plus, je dirais, plus cash dans notre manière d'en parler. Mais ça reste au sein du couple, des histoires d'amour, quelque chose qui est compliqué. On va plutôt s'enfoncer dans des choses qui se passent pas très bien plutôt que d'en parler. On sait pas trop quand en parler, en fait, parce que quand on rencontre quelqu'un, bon, sauf si on se rencontre sur un site de rencontre qui est destiné à ça, on va pas tout de suite dire voilà, moi ce que j'aime c'est ça j'aime pas. Et puis après, quand on pratique, quand on consomme, on va pas immédiatement après faire un débriefing, parce que c'est pas dans notre culture de le faire. Donc on laisse les choses s'installer, et parfois dans une routine qui est un peu oppressante, parfois dans des choses dans lesquelles on n'est pas forcément très à l'aise, mais on le fait parce que, pour finir, le sexe c'est aussi très normatif, et on apprend à faire un sexe qui ressemble à ce qu'on voit sur les sites porno, mais qui nous satisfait pas forcément, alors qu'il y a autant de sexe que de visages différents et de pratiques différentes et de goûts différents. Donc on a besoin d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ça ou son ou ses partenaires, et de trouver ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend épanouis. Et je pense qu'une bonne manière de le faire, c'est de désacraliser un peu cette sexualité, d'en faire quelque chose de plus léger. Au fond, c'est un terrain de jeu. On n'est pas en train de jouer sa vie sur un rapport sexuel, même si c'est avec la personne qu'on aime de tout son cœur. Ça va rater. Il y a des fois où ça va être naze, c'est inévitable. Et puis un bon éclat de rire, même si on sait bien que pour les messieurs c'est pas très favorable, ça permet de déconnecter, de dire ok, on se détend, c'est pas si grave, on a été nul sur ce coup-là. Pourquoi on a été nul au fond? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui marche pas? Et puis recommencer mieux.
Il y a beaucoup de dialogues d'ailleurs dans Happy Sex, et c'est un truc qui se fait,
ça parle beaucoup,
je pense, assez peu d'une manière générale. Les gens n'ont pas tendance vraiment à parler pendant
le sexe. Moi je joue beaucoup sur les dialogues qui sont un peu du faux dialogue, où on dit pas vraiment ce qu'on ressent.
Ça
parle beaucoup. c'est quelque chose, moi j'aime beaucoup écrire les dialogues, je suis assez bavard, donc j'aime cet aspect là de la bande dessinée. Mais soit ce sont des couples qui se rencontrent et c'est un premier rapport, donc il y a un côté très on va tout de suite dans le jeu, soit c'est des couples qui sont déjà ensemble depuis un certain temps, qui ont envie d'expérimenter des nouvelles choses, il y a aussi toute cette idée de la sexualité, elle est à l'image de l'amour, donc est-ce que tu m'aimes vraiment, est-ce que tu me désires, on peut voir aussi que parfois c'est deux choses qui se dissocient. Moi j'aime bien toutes ces histoires de couples qui négocient un truc, mais qui disent pas vraiment ce qu'ils aimeraient, parce que on n'ose pas, et même quand on est ensemble depuis parfois des années, on n'ose pas vraiment être cash sur ce qu'on aimerait faire, parce qu'on ça peut être mal pris par l'autre. Est-ce que c'est quelque chose de blessant? Est-ce quelque chose de d'humiliant? On veut pas que ça ait l'air sexiste. Alors que justement, moi, j'essaye vraiment d'avoir un humour qui est pas sexiste, parce que j'aime pas cette idée de rire en se moquant d'une catégorie de personnes. Je trouve que c'est toujours assez triste, cet humour-là. Il me fait plus pleurer que rire. Je pense qu'on a besoin de rire ensemble de ces situations. On est toujours tous un peu cons, au fond. Et je sais plus pourquoi je vous disais ça.
Mais non, mais en fait,
je retombe pas sur les pieds.
Moi, il y a un autre truc qui m'a beaucoup marqué. Non, tu n'étais pas du tout. L'objectif, c'est que justement, on discute, donc c'est bien. L'un des trucs qui m'a un peu marqué aussi, c'est qu'il y a plein de, il y a toutes sortes de formes de sexe, d'âge, de couleur. T'as voulu faire un truc très inclusif. J'ai l'impression très moderne. Ça te vient d'où ça? C'est un truc que t'as fait assez naturellement?
Bah, c'est le plaisir du dessin aussi.
Ouais.
C'est que j'aime bien dessiner des choses différentes. J'ai pas envie de dessiner la sexualité des mêmes personnages tout le long. Et j'aime bien, alors c'est aussi dessiner les corps. Je trouve que c'est marrant de dessiner, comme il y a chaque personne a un visage différent, chacun a une bite différente, et chaque femme a un sexe différent. Donc ça aussi, alors même si c'est de la bande dessinée, c'est tout petit, hein, mais j'aime bien ce côté minutieux du dessin. Et je mets pas mal de soins à cette partie-là et à dessiner ça. C'est pas une bande dessinée érotique, on n'est pas là pour exciter les gens. Donc je vais dessiner ça avec le même soin et le même, je dirais, ce sera aussi explicite que si je dessinais un vélo ou un platane ou une théière. Enfin, pour moi, on est là, on est entre adultes, on parle de sexe. Bon. Tout le monde a déjà vu quelqu'un tout nu, il s'est déjà vu sous lui-même généralement, donc il n'y a pas de raison que je déploie de la pudeur pour dessiner mes personnages en situation.
Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de parler de sexe comme ça aussi ouvertement, et surtout en venant de la BD Jeunesse? Alors j'imagine que c'est des questions qu'on t'a déjà posées il y a 10 ans quand t'as sorti le premier épisode. On s'était jamais rencontré, donc j'aimerais bien savoir.
En fait, je venais de travailler pendant 2 ans avec la Cité des Sciences pour adapter un livre qu'on avait fait avec Hélène Brulard qui s'appelle Le Guide du Zizi Sexuel, qui est un livre qui existe depuis maintenant bientôt 20 ans et qui est un des best-sellers de Titoff, quoi, et qui avait été adapté en expo pour la Cité des Sciences. Donc il fallait ajouter plein de dessins, trouver des animations, des machines, des trucs pour montrer de manière amusante ce qu'était la puberté, la sexualité, la transformation du corps. En fait, tout ce sujet qui peut être un peu anxiogène pour des enfants, en faire une sorte de parc d'attractions un peu rigolo. Donc je m'étais beaucoup amusé à faire ça, et après ces 2 ans... je m'étais dit, mais j'aimerais bien faire la même chose, enfin, avoir un peu cette même démarche, mais pour les adultes. Pouvoir dire, ces pratiques sexuelles, évidemment, ça fonctionne pas parce que dans le discours, on dit ça, et dans les faits, on fait autre chose. Donc ça marche pas, on n'est pas en accord avec ce qu'on pense vraiment, et souligner toutes ces incohérences, ces petits décalages, ces trucs qu'on a dans nos vies d'adultes, parce qu'on est un peu coincé avec ça. Même si aujourd'hui on assume, on peut dire oui, je vais voir de la pornographie, oui, je me masturbe, oui, enfin, on n'est plus. Il y a une liberté de parole, on assume plus son plaisir et sa sexualité, mais ça reste encore quelque chose de tabou qui n'est pas si simple à échanger.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers l'éducation sexuelle? Parce que même en venant de la BD Jeunesse, c'est pas forcément un truc que tous les auteurs jeunesse font, quoi, tu vois, de venir se dire, ok, à un moment donné, je vais faire en sorte d'utiliser la notoriété de mon personnage pour venir parler plus spécifiquement de ce sujet-là.
Ça s'est fait tout seul, pas de manière volontaire, mais j'ai commencé à dessiner l'histoire de Titoff. Et contrairement à beaucoup de bandes dessinées dont les personnages sont des enfants. Souvent, quand on écrit des histoires pour les enfants, ce qui n'était pas le cas de Titeuf au départ, je ne me suis pas dit que je vais écrire pour les enfants, on écrit pour ses enfants. Et donc, on a envie de leur raconter des belles histoires, des histoires un peu rassurantes sur le monde, parce que, évidemment, on n'a pas envie de faire peur à ses enfants, on a envie que ce soit les livres qui les aident. Et moi, quand j'ai fait Titeuf, je n'avais pas d'enfants. Donc, je n'avais pas du tout cette approche-là. Je ne m'étais jamais dit que j'allais faire une bande dessinée. J'avais 25 ans. Ouais. Je ne m'étais jamais dit je vais dessiner un personnage qui est un enfant. Je pensais dessiner toujours des personnages qui étaient proches de moi, qui avaient mon âge. Et là, je suis parti dans cette histoire de souvenirs d'enfance et j'ai eu envie de raconter ce qui me revenait de l'enfance, qui me semblait être assez différent de ce que je pouvais lire dans les triplés ou dans les bandes dessinées qui parlent de l'enfance. Je me souvenais pas d'une enfance comme ça. Je me souvenais d'une enfance avec des choses assez inquiétante, assez angoissante quant à l'avenir, à une incompréhension entre les filles et les garçons, à beaucoup de d'incompréhension du monde des adultes, et pour finir, une information qui venait des grands qui était très parcellaire. Donc nous, on remplissait les blancs en imaginant des trucs qui étaient souvent complètement à côté de la plaque, mais qui sur le moment faisaient un peu la blague, nous rassurant, on se dit ouais, en fait ça doit être ça, et donc il y en avait toujours un qui savait un peu mieux sur un sujet, qui ramenait sa science. Et un des sujets qui était un grand sujet de débat dans la cour de récré, c'était la sexualité. Comment c'est dans la culotte d'une fille, hein, quand on avait 7 ans, on savait pas. Moi, je pensais que les filles, elles avaient des boules aussi, elles avaient des testicules. Alors, je les dessinais comme ça. Alors, les copains se foutaient de ma gueule. Ils disaient, mais non, c'est pas comme ça. Donc, il y en avait qui savaient, vous avez une grande sœur. Enfin, voilà, on essayait de comprendre le monde. Et naturellement, parmi les sujets qui sont venus, celui de la sexualité était là aussi, était un sujet pas prédominant du tout, mais était là. Mais par contre, il était complètement inexistant dans toutes les bandes dessinées avec des personnages enfantins. Du coup, enfin, tous les bandes dessinées qui s'adressaient,
oui,
à des enfants.
Aux enfants.
Et donc, j'ai dessiné ces histoires complètement librement, où Titeuf parle aussi de sexualité, qu'est-ce que c'est faire l'amour, pourquoi la dame, elle est enceinte, qu'est-ce qui se passe, etc. Qui me semble faire partie du quotidien des enfants. Et ceci a été publié sans aucun problème, puisque ça sortait comme une bande dessinée. Le premier Titeuf était en noir et blanc à l'époque. C'était plutôt une bande dessinée qui était vendue en librairie de BD, donc peu fréquentée par la jeunesse. Et j'ai vu arriver, quand j'étais en tournée de dédicace du tome 2, j'étais en train de travailler sur le troisième tome de Titeuf, et là j'ai commencé à voir arriver des hordes de gamins qui venaient et qui connaissaient les histoires par cœur. Et j'avais pas du tout prémédité ça. Donc je me suis trouvé un peu pris sur le fait. Et ça m'a surpris parce que je pensais pas que... Pour moi, c'était trop proche de l'enfance et ça allait pas les amuser, parce que pour finir, ça racontait un quotidien sans qu'il y ait vraiment une fiction. Oui. C'était pas Harry Potter. Donc je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous aimez dans Titeuf? Et je me rappelle d'un petit garçon qui m'avait dit, non, on est bien Titeuf parce qu'il nous prend pas pour des débiles. Et je trouvais ça chou et désarmant de vérité, parce que c'est vrai qu'on cherche à parler aux enfants. Alors moi, je cherchais pas du tout à parler aux enfants, mais souvent dans la littérature jeunesse, on cherche à s'adresser aux enfants. Mais on n'arrive pas à se souvenir de l'enfant qu'on était, parce qu'on est vraiment devenu un pédagogue. Et c'est vrai que c'est un peu le risque quand on devient parent, c'est qu'on balaye son enfance et on voit plus l'enfance qu'à travers ses propres enfants, qu'on imagine toujours beaucoup plus naïf, beaucoup plus fragile, beaucoup plus déconnecté qu'ils ne le sont. Les enfants, ils sont tous sur Internet, ils ont 10 ans, ils ont déjà tous vu des images pornographiques. Ils ont déjà tous parlé de plein de choses. C'est des questions essentielles, la vie. Donc, ils en parlent. Et c'est ce qu'ils ont aimé dans Titeuf. C'est ce qui fait que Titeuf a eu aussi, au début, beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des détracteurs qui disaient, mais non, il faut pas que les enfants lisent ça.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Au début, il y avait vraiment pour ou contre Titeuf. Il fallait choisir si on était pour ou contre. Il y avait des libraires qui l'interdisaient. Il y avait des bibliothécaires qui voulaient pas le prendre. Enfin, et ça a été toute une polémique très marrante, d'ailleurs, qui a ouvert aussi un dialogue là autour. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire à des enfants? Pourquoi c'est important la transgression? Pourquoi c'est important quand on est enfant de s'affranchir de certains codes? Évidemment, on va pas parler de certaines choses devant ses parents, mais entre copains, on en parle. C'est normal. Si on n'en parlait pas, ça voudrait dire qu'on est dépourvu de curiosité, ce qui est quand même une des qualités principales pour évoluer quand on est enfant. Donc voilà, je me suis retrouvé éducateur malgré moi, et surtout, je me suis retrouvé, j'ai hérité de tout un lectorat d'enfants que j'avais pas du tout prémédité. Et comme ils étaient là, que j'avais déjà presque dessiné 3 albums de Titeuf, je me suis dit, mais il n'y a pas de raison, je ne vais pas changer ce que j'ai fait, je ne vais pas tout à coup dire, oh mon Dieu, j'ai des enfants, donc il faut que je sois plus... Ce qu'ils demandaient, c'était ça. Donc j'ai continué à faire la même chose, et j'ai toujours eu ces deux publics, enfin un public adulte, un public enfant. Et donc j'ai tenu bon, mon éditeur a tenu bon, on n'a jamais censuré Titeuf.
Est-ce qu'au contraire, t'es plutôt, tu t'es peut-être dit, tiens, en fait, qu'est-ce que les enfants d'aujourd'hui... Parce que, si j'ai bien compris, donc, au départ, Titoff, tu pensais à tes propres souvenirs d'enfance. Mm-hmm. Est-ce que tu t'es servi de ce lectorat-là, justement, pour aller creuser, piocher des histoires auprès d'eux, non?
Pas tellement.
Ouais.
Non. Parce qu'en fait, souvent, une bonne anecdote, ça fait pas une bonne histoire. J'aime bien qu'ils me racontent des trucs, je trouve ça super. Je reçois beaucoup de courriers, toujours... Alors, moins de courriers, les enfants écrivent de moins en moins, il faut être honnête, hein. Ils se font des SMS, mais
ouais, c'est vrai,
ils ont
ouais.
plus de lettres papier, mais il y a 20 ans, je recevais des cargaisons de lettres d'enfants. Et, ils me racontaient beaucoup de choses. Mais j'ai toujours la même manière, c'est quand je fais Titoff, il y a un côté un peu régressif, c'est-à-dire j'essaye de devenir Titoff, donc je suis dans ma tête, hihi, je vais m'amuser, je vais raconter mes petites blagues, les griffonner sur mon cahier. Et puis, c'était ma femme qui me disait, je rentre dans la pièce et je sais si t'es en train de faire du Titoff ou non parce que tu te tiens pas de la même manière. Je me tiens de manière plus recroquevillée. J'ai un grand corps d'adulte d'1m87 et là tout à coup je rentre dans une vie d'enfant et j'écris toujours les histoires comme ça. Qu'est-ce qui va me faire marrer? Qu'est-ce qui va m'inquiéter? Qu'est-ce qui va... Donc je suis ce petit garçon aujourd'hui, je me promène dans la rue, je regarde, j'entends parler de, je sais pas, de la planète qui va mal, de la forêt amazonienne, comment je vais réagir en tant que Titoff, voilà. Ça c'est ma manière d'écrire des histoires. Et il y a jamais je me dis ah ben non, ça c'est je peux pas dire ça, c'est tabou. Le tabou ça existe pas quand on est enfant. Jamais un enfant va se dire je vais m'interdire de penser à ce sujet parce qu'il est tabou. Il va le dire à ses parents.
C'est ses parents après qui vont lui dire.
Voilà.
Tu peux pas.
C'est vraiment une invention des adultes, ça. Et je pense que c'est une invention des adultes qui ont peur de l'intelligence des enfants. Ça nous fait peur parce qu'on a l'impression que nos enfants, s'ils vont trop loin, ils vont se faire mal. Ils vont arriver face à des choses qui sont trop compliquées pour eux. Donc, on cherche à les contenir, à les protéger. Je le sais parce que moi, j'ai 5 enfants.
Oui.
Et donc, quand je m'adresse à mes enfants, j'aimerais être aussi libre que ce que je vous dis là, mais j'ai des réflexes de parents qui disent non, faut pas, non, ça, on en parlera quand tu seras plus grand.
Ah, enfin, d'accord, ok.
Des fois, ça m'arrive de coincer, puis j'ai dit, mais quel con, pourquoi tu dis ça? Non, ici, il pose la question, il faut répondre. Mais bon, il y a aussi des âges où les enfants vous abreuvent de questions, c'est 1000 questions par jour, donc on n'en peut plus. On dit à cause de Pars, qui est maintenant tais-toi, bah oui, parce qu'on n'en peut plus de répondre à des questions aussi, en plus. C'est des questions qui arrivent comme ça par rafale et qui sont qui est Dieu, où s'arrête le cosmos, c'est quand la vie, enfin il nous faudrait, on n'en sait rien. Déjà c'est ça, et je pense que c'est assez sain de dire à des enfants on n'en sait rien. Voilà, j'en sais pas plus que toi, j'ai 50 piges, je sais pas, peut-être t'en penses quoi, enfin voilà, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on a expérimentées, on a pu voir, puis il y a des choses qu'on sait toujours pas, il y a des choses qu'on saura jamais, et plutôt que de donner une réponse toute faite pour rassurer les enfants qui vont vite comprendre que cette réponse elle est pas vraie, et ça va plutôt les inquiéter qu'autre chose. Moi, une des premières choses que j'ai comprises à l'âge de Titoff, c'est que les adultes n'étaient pas omniscients. Je me rappelle, j'avais un prof en primaire, qui s'était vanté la semaine de la rentrée en disant « Alors moi, je sais tout. Vous pouvez me poser n'importe quelle question, je connais toutes les réponses. » C'est complètement idiot de dire ça. C'est tellement un mensonge. Et on avait, je sais pas, 9 ans, et avec un copain, on s'est dit « C'est pas vrai, il pipote, je suis sûr qu'il pipote. » Alors ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait le soir dans le dictionnaire, on lisait des définitions de trucs impossible à mémoriser. Et le lendemain, il disait, monsieur, c'est quoi, hein? Et on sortait des mots. Et le gars, évidemment, il ne voyait pas
séché.
De faute. Donc, il inventait un truc. Il disait, eh bien, c'est nanana. Et après, l'autre levait la main, dit, non, monsieur, je crois plutôt que c'est un ustensile ostentatoire inventé au XVIe siècle par nanana. Et donc, on s'était dit, ouais, en fait, c'est du pipeau. Les adultes ne savent pas tout. Et pour finir, ce truc qui pourrait être... flippant et très libérateur parce qu'on se dit bah ok, on a le droit aussi de trouver nos réponses, ils savent pas tout donc on va inventer, et pour finir ça nous gêne de leur demander parce qu'il y a des trucs comment on fait l'amour, comment on fait les bébés, c'est un peu embarrassant, souvent moi mes parents étaient pas très à l'aise de répondre à ces questions non plus, donc plutôt que les embêter avec ça on inventait, on dit ouais on doit faire comme ça, ça marche comme ça. C'était du gros n'importe quoi mais on s'amusait bien.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Je disais hors micro que en fait j'avais fait la découverte de ton autre carrière de dessinateur où en 2013 si je me trompe pas t'as sorti ton premier livre comment on pourrait appeler ça de BD réaliste en fait c'est ça pas de cartoon qui s'appelle Une histoire d'homme alors j'ai lu quelque part qu'en fait t'avais redessiné trois fois l'album.
Ouais, parce qu'il fallait quand même que j'apprenne ce dessin réaliste.
Que tu apprennes ce dessin.
Ouais.
Parce que tu savais pas le faire. Enfin, moi j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible que Zep, il refasse trois fois alors que c'est Zep, quoi.
Je savais faire un dessin réaliste. J'aime bien dessiner d'après nature, donc je vais dehors, je dessine des baraques, des immeubles, j'adore dessiner les arbres. Et puis je dessine les gens dans le bus, dans le train, au bistrot, je dessine les gens autour de moi. C'est une manière de nourrir un peu mon... En fait, le dessin, c'est comme une langue qu'on apprend. Donc, plus on avance, plus on parle, plus on a de mots. Mmh. Au début, on sait dire trois phrases, et puis après, on développe un petit peu. Et donc, j'apprends ce dessin réaliste, mais quand il s'agit de passer à une bande dessinée, on va vraiment raconter une histoire avec toutes les contraintes que ça implique, j'avais des grosses lacunes en dessin réaliste. Donc, j'ai dessiné une première fois mon album. On était entre un album réaliste, mais il y a des moments où il gesticulait un petit peu comme si on était dans du Titeuf, où il y avait des problèmes de dessin importants. Donc, je l'ai redessiné une deuxième fois, une troisième fois, la troisième fois, ça allait. Ça allait, mais encore, voilà, il y a encore du job, quoi. C'est pas, je peux pas dire que je sois un dessinateur réaliste. On devient un dessinateur réaliste en deux ans de travail. C'est une vie aussi. Mais c'est un dessin que j'aime pratiquer et qui me permet de raconter d'autres choses, autre chose que de la comédie. Et au fond, moi, j'aime raconter des histoires depuis toujours. Alors, j'ai développé l'humour, c'est plus mon écriture première. Mais au fil du temps, j'ai accumulé plein d'histoires dans mes carnets que j'ai envie de raconter, que j'ai envie de développer, qui passent pas forcément par le biais de l'humour. Faut le faire autrement. Et pendant longtemps, tout ça, ça restait comme ça, comme au frigo, quoi. C'était stocké dans mes carnets. Parce que comme j'étais un auteur humour, je pensais que, d'une certaine manière, j'avais pas ma place, ouais, je m'autorisais pas à faire ça. Et j'ai commencé à le faire, j'ai fait un livre chez Gallimard en 2011, je crois. En fait, Gallimard m'avait proposé de publier mes carnets de croquis. Donc là, c'est pas de la bande dessinée, ce sont que des dessins d'observation où je me pose et je dessine quelque chose dans la rue. Et j'écrivais des petits textes dans mes carnets de croquis qui sont... Quand on dessine dehors, c'est entre de l'observation et une forme de contemplation ou même de méditation. C'est comme un exercice, comme ça qu'on ferait le matin pour se mettre en route. Donc j'écrivais des pensées, des choses qui me traversaient l'esprit, des choses qui me pesaient à ce moment-là. Donc on était entre un carnet de dessin et un journal intime. Et eux m'ont proposé, ils m'ont dit, moi ça pourrait s'appeler carnet intime et on met aussi tes textes. Et moi je dis non, je sais pas. Ils m'ont dit, écoute, fais une sélection de textes, tu me les envoies. Donc j'ai réécrit plein de textes un peu rigolos, déconnants là-dessus. Et j'en ai laissé deux un peu graves que j'ai envoyés. Et mon éditeur, Thierry Laroche, m'a dit, mais en fait c'est ces deux-là que j'aime.
J'ai dit, mais
je suis le mec qui fait Titeuf, les gens ils ont pas envie de lire des choses comme ça, un peu graves de ma part. Il me dit, si, mais vas-y, tu t'en fous. Moi, j'ai envie, donc fais-le. Et je l'ai fait. C'est un livre qui m'est cher dans ma bibliographie. Alors, c'est un livre assez intime aussi dans ses ventes. C'est pas du tout ça. C'est pas comme un Titeuf, mais c'est un livre qui est encore aujourd'hui, bientôt 10 ans après sa sortie, il y a des gens qui m'en parlent en me disant que c'est un livre qui les touche beaucoup, que c'est leur livre préféré de ma bibliographie. Donc, quand on m'a dit ça, je me suis dit, peut-être que j'ai aussi le droit de raconter des histoires comme ça. Et c'est comme ça qu'est née une histoire d'homme.
Oui, tu te sentais pas légitime, en fait, de raconter des histoires d'adultes, entre guillemets?
Ouais, j'avais l'impression que c'était pas... Il y a déjà beaucoup d'histoires, il y a déjà beaucoup de livres qui sortent. Et oui, je me dis, j'ai un coin comme ça où je raconte des trucs, où j'ai l'impression que c'est assez cohérent entre ce que je pense, ce que j'écris. J'ai l'impression de faire quelque chose qui est honnête, quoi, qui est à l'image de ce que je ressens. Tout à coup, de faire autre chose, je me disais, ouais, mais est-ce que je vais pas. ouais, c'était un peu idiot, c'est un peu protestant comme idée. Je me disais, ouais, mais au fond, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et je suis content de l'avoir fait parce que c'est des livres qui ont plu à beaucoup de lecteurs et qui sont pas forcément les lecteurs que j'ai sur Titeuf ou sur Happy Sex. C'est autre chose. Des gens qui recherchent pas forcément c'est une approche humoristique de la vie, mais qui ont envie d'aller dans des choses peut-être plus graves, plus. Et en termes graphiques aussi, ça me permet d'explorer, d'aller vraiment ailleurs.
Pour revenir à cette fameuse BD, Une histoire d'homme, d'où vient l'inspiration de cette histoire? Donc c'est l'histoire de quatre potes.
C'est quatre potes qui ont. Alors moi, je suis fan de musique. Alors, je joue de la musique depuis que j'ai 12 ans dans des groupes. Donc j'ai participé à plein de petits groupes où on était persuadé qu'on allait devenir les nouveaux Rolling Stones. Ça a jamais marché. Mais j'ai toujours fait ça un peu de manière un peu dilettante. Mais beaucoup de copains avec qui j'ai joué ont continué, sont aujourd'hui des musiciens professionnels qui vivent, qui ont tous failli être almost famous, quoi. Sont passés à côté de où ils ont pu être castés pour remplacer tel musicien dans un groupe célèbre. Et tous les musiciens ont des histoires comme ça. Et j'avais envie de raconter ça, ce rapport à la célébrité. Qu'est-ce qu'on fait avec des rêves qu'on a eus quand on est ado et qu'on devient adulte et ces rêves sont plus là. Et puis c'est aussi une histoire sur le secret. C'est quatre copains qui sont liés par un groupe. Ce groupe explose à un moment où ils ont leur chance. Ils sont à deux doigts. Ils sont à Londres. Ils sont invités dans une grosse émission à la BBC. Et ils vont signer un album. Enfin, c'est possible, ça peut se passer là. Ça dérape pour une histoire triviale, débile.
C'est le Beck groupe qui les remplace.
Voilà, et c'est Beck qui les remplace, exactement. Et tous retournent dans leur vie, sauf un, le chanteur est repéré, et lui devient une superstar. Et donc, 20 ans après, ils se retrouvent. Entre-temps, ce chanteur a eu un fils, son fils est mort. Ils se retrouvent tous autour de lui un peu pour commémorer la mort de son fils et du fils de sa femme qui était aussi une amie du groupe et qui est aussi liée. En fait, plein de secrets les lient tous. Personne n'a toute l'histoire. Chacun a un morceau de l'histoire qui permettra de libérer tout le monde de ce secret. Que ce soit celui qui est devenu célèbre, qui n'est pas plus épanoui dans sa vie parce qu'il porte aussi quelque chose dont il n'a pas la clé. Donc voilà, c'est un récit grave, en même temps rigolo, parce que c'est des copains qui ont fait plein de trucs très potaches ensemble et qui se retrouvent à 40 ans. Et on le sait, des hommes de 40 ans qui ont été copains à 20 ans, si vous le mettez ensemble, ça tourne vite à un truc assez régressif. Donc voilà, il y a ce côté-là que j'aime bien écrire aussi.
Puis il y a beaucoup de sensibilité aussi, je trouve, et qu'en fait, je trouvais intéressant de te faire parler un petit peu de ton rapport à la masculinité, parce qu'en fait, tu dresses des portraits d'hommes, et notamment dans cette histoire, qu'on voit pas souvent, en fait. Et je trouvais ça intéressant de t'en faire causer. Qu'est-ce qui te donne envie de parler des mecs?
Ben parce que j'en suis un et que je suis quelqu'un qui écrit des histoires, donc je suis tout le temps en train de m'en inventer. Et qu'est-ce que c'est être un homme quand on fait un métier qu'on a voulu faire quand on était un enfant? Qu'est-ce que c'est de devenir un homme? Je pense que c'était aussi un âge, je l'ai écrit, j'avais 41 ans, 42 ans quand j'écris cette histoire. J'avais l'âge des personnages. Qu'est-ce que c'est de devenir un homme? Et c'est vraiment l'histoire d'un adolescent de 40 ans qui devient un homme aussi. Et qui peut pas devenir un homme parce que une partie de sa vie est bloquée par un secret qui est détenu par ses copains. Et je pense qu'il y a des choses comme ça dans nos vies qui sont bloquées, liées, parce qu'on n'a pas eu, parce qu'on n'a pas pu dire le mot, faire le geste, c'est des histoires assez folles, je trouve, par exemple, des histoires d'amour, des gens qui sont amoureux toute leur vie d'une personne, et puis ils ont jamais pu, mais ils sont partis d'une autre histoire, mais quelque chose d'eux est bloqué dans cet amour qui a jamais pu exister. Comment on gère ça? On peut pas toujours tout vivre. Il y a plein de choses qu'on a fait de manière, qu'on a entamé, et puis ça s'est arrêté. Presque toute l'histoire de notre vie, c'est ça, parce que quand on devient ado, souvent, on avait commencé un grand projet en tant qu'enfant, qu'on abandonne parce qu'on passait à l'adolescence, qu'on va abandonner parce qu'il faut devenir sérieux, faire un métier. Notre vie, elle est faite de choix et de renoncements. Donc, comment est-ce qu'on devient un homme avec ça? Et le fantasme, c'est, voilà, il y a des gens qui ont pu faire vraiment leur passion et devenir ce qu'ils voulaient. Et en l'occurrence, parmi ces quatre gars, il y en a un qui est devenu la star qu'ils voulaient tous être. Et peut-être que c'est lui qui a la vie la plus contrainte et la, qui est le plus loin de ce qu'il avait, de ce qu'il avait voulu être. Donc, j'aime, ouais, c'est une histoire qui est chère pour moi. Puis c'est, disons que c'est ma première histoire dans ce registre-là. Donc, j'y ai mis aussi beaucoup de choses de moi.
Tu... Alors ensuite, tu as fait aussi un beau bruit...
Un bruit étrange, pardon.
Ouais. Et beau. Où tu... C'est l'histoire d'un...
D'un moine.
D'un moine qui sort pour la première fois de son monastère depuis 24 ou 25 ans, c'est ça ? Pour aller à... aller retrouver le notaire parce que sa tante...
Voilà, il touche un héritage. Ouais.
Et donc, il se retrouve... il se retrouve dehors.
Ouais, alors ça, c'est un moine chartreux. Et les chartreux, c'est l'ordre le plus strict qu'on peut trouver, c'est-à-dire que c'est silence, célibat, solitude. Donc chaque chartreux vit coupé des autres moines dans une cellule qui est assez grande quand même, mais enfin il est tout seul, il passe sa vie seul dans cette cellule et il rejoint les autres uniquement pour les offices où il chante, mais autrement personne ne parle, on ne se parle pas. Donc il y a un silence qui est incroyable. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me fascinait, de parler du silence. Qu'est-ce que ça veut dire, le silence, aujourd'hui ? C'est inimaginable. On est à Paris et ça n'existe pas, le silence. Il y a du bruit partout, tout le monde parle. Et là, ces gens qui décident de s'extraire du monde et d'aller s'enfermer dans des monastères pour vivre des expériences qui sont hyper radicales, en fait. Enfin, qui ne mesurent pas du tout, parce que souvent, c'est des engagements qu'on prend très jeunes. Et on ne sait pas du tout ce que va être notre vie. En plus, des vies sans femmes, ça veut dire que ces gens ne vont plus jamais voir de femmes jusqu'à leur mort. Donc voilà, tout ça me fascinait. Comment on ressort de ça? Comment on revient au monde? Comment on revient au bruit? Comment on réapprend à communiquer avec les gens? Tout le danger, la peur que peut susciter la relation, la parole, les femmes, le sexe, l'amour, tout ça. C'est quelque chose qui m'intéressait. J'ai écrit cette histoire. Là, pour le coup, on n'est plus du tout dans l'histoire d'un groupe de rock. Mais je trouve que ça me permettait d'aborder plein de sujets qui touchent aussi. Et pour moi, c'est marrant parce que c'était une histoire qui était vraiment très intimiste, là, pour le coup. Après une histoire d'homme, je dis, bon, voilà, j'ai dit à mon éditeur, là, je fais un truc, mais je pense que ça ne va pas intéresser beaucoup de monde. C'est vraiment une histoire un peu perché. Enfin, c'est le destin de quelqu'un, c'est quand même un destin très singulier, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce moine chartreux. Et c'est un livre qui a plu énormément, qui a eu beaucoup de lecteurs, d'échos, et qui est un livre qui est sorti maintenant il y a quelques années, mais qui est encore dans des coups de cœur de libraire aujourd'hui, quoi. Donc il y a une longue vie en librairie, et ça fait plaisir, quoi. Ouais.
C'est quoi ton rapport à la religion?
Alors, il est assez fluctuant. Quand j'étais enfant, bah, je croyais pas du tout en Dieu. J'ai eu une période de ma vie entre mon adolescence et ma vie de jeune homme où j'étais croyant, et ça, j'étais assez fasciné par cette idée d'un texte qui traverse le temps comme ça, qu'on se passe de génération en génération et qu'on lit et qu'on commente, et de quelle manière ce texte bouleverse des vies, crée une civilisation, en fait. Donc je suis allé en monastère souvent, je suis allé une dizaine de fois en monastère à cette période, faire des retraites dans le silence, et j'ai trouvé que cette expérience du silence était assez incroyable. Voilà. Puis après tout ça, c'est délité. Je suis parti dans une autre vie. J'ai eu des enfants, donc le silence a disparu de ma vie. j'ai cessé de croire en Dieu. Mais c'est resté quelque chose, une expérience dont, en tout cas, cette expérience de silence, je me suis dit que j'en ferais quelque chose une fois, et ça a été ce livre.
J'ai lu dans, pour revenir à Happy Sex 2, j'ai lu dans le dossier de presse qu'en fait, il y avait des enfants. Donc des grands-enfants, 18-20 ans, qui venaient acheter et de faire dédicacer le livre pour l'offrir à leurs parents.
Ouais, c'est drôle ça. Je trouve que c'est signe de... quelque chose change quand même dans notre société. C'est assez... Moi, j'aurais jamais osé offrir ça à mes parents. Mais voilà, il y a des enfants qui sont beaucoup plus... il y a des familles qui sont beaucoup plus libres sur le sujet, qui en parlent plus librement. Donc c'est pas un sujet tabou. Ça, c'est super, je trouve.
Dans ta famille, ça se passe comment? Tu penses que tes enfants, ils pourraient...
Oui, Bon, ils vont pas me l'offrir parce qu'ils savent que je l'ai déjà, mais et que ça me rappellera le boulot. Mais avec mes enfants, on essaye de parler régulièrement de sexualité depuis qu'ils sont.
Ils ont quel âge tes enfants?
Ouais, ils vont de 11 ans à 22 ans. On en a 5. Donc c'est assez large, une famille recomposée. Donc en plus, c'est des demi-frères et des demi-sœurs, mais ouais. ça crée une dynamique aussi particulière qui est assez géniale. Et moi, j'adore parler avec eux de ça et écouter justement de quelle manière ils perçoivent le sujet. Et ils sont effectivement, déjà, je pense qu'ils nous disent pas tout parce qu'ils nous protègent, mais ils ont été très confrontés déjà à beaucoup de choses, ouais, à leur âge.
Je trouve que par rapport au premier épisode, au premier tome d'Apisex, il y a énormément de nouvelles technologies. Et c'est sûr qu'il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de téléphones dans nos vies, etc. Tu parles énormément de Tinder, de Pornhub, des réseaux sociaux, etc. J'avais envie de te demander, ça te vient d'où en fait ces anecdotes? C'est un truc, toi, que tu. Pareil pour les applis de rencontre, etc. C'est des anecdotes dont tu as entendu parler
Ouais, il y a un peu de tout. C'est un peu mon métier de choper des éléments puis de fabriquer des histoires. Après, j'ai lu les grandes enquêtes qui sont sorties sur un peu l'état des lieux de la sexualité en France. Je suis beaucoup allé sur des chats. Sur des sites, que ce soit des sites de rencontres, des sites porno, voir un peu quelle est la tendance, quelles sont les tendances actuelles. J'ai des amis qui sont à fond dans ces histoires de Tinder et de sites de rencontres, donc ils me racontent plein d'anecdotes. Et puis voilà, il y a aussi beaucoup depuis MeToo, il y a eu aussi vraiment une libération de la parole féminine sur le plaisir, sur l'orgasme.
T'as une planche d'ailleurs où les femmes,
racontent par dessin l'orgasme. Ouais, j'ai 6 personnages, 5 femmes qui s'appellent Décrivez l'orgasme. Et donc elles racontent. Alors, c'est une bulle avec chaque fois un dessin, mais c'est une sonate, c'est un tableau de Miro, un cheval ailé qu'une femme chevauche avec une épée, c'est une vague, et le dernier, c'est un homme qui est là, qui a l'air tout satisfait de lui. Puis dans sa bulle, on voit juste une bouteille de champagne qui fait pop et le bouton qui saute. Et voilà, c'est vrai que nous, on n'a pas. On a moins à raconter, forcément, notre sexualité. Elle est plus basique, elle est plus binaire, notre sexualité. Elle est moins fluctuante. Déjà, on n'est pas dans un cycle. Et je pense que ça, c'est aussi une des principales raisons qui fait qu'on a du mal à se rencontrer, c'est que nous, quand un truc marche le lundi, il marchera aussi le mercredi. Une femme, non, parce que non, elle va dire « j'aime pas ça, mais t'es la semaine dernière, tu m'as dit que c'était super. Ah, » mais c'était la semaine dernière. Donc on est dans des trucs où c'est vachement dur pour un homme d'appréhender cette histoire de cycle. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup se dire des choses quand même, de s'exprimer, de se montrer les choses, parce que c'est pas du tout une évidence que ça marche comme ça. Et il y a beaucoup, maintenant, c'est vrai qu'il y a une libération de la parole. Beaucoup de femmes revendiquent plus leur plaisir, revendiquent aussi le plaisir qu'elles ont à aller voir de la pornographie. La masturbation est aussi dépénalisée. Enfin, elle n'était pas pénalisée, mais il y avait un côté toujours un peu honteux. Si on disait qu'on se masturbait, c'est qu'on avait une vie sexuelle de merde. Alors que non, aujourd'hui, ça fait partie de l'épanouissement personnel. Hommes et femmes. Donc voilà, tout ça, je trouve que c'est vachement intéressant d'aller choper des trucs un petit peu partout et de construire des histoires. Souvent, je construis les histoires plus que je ne dessine des anecdotes, parce que une super anecdote, ça fait pas forcément, comme pour Titoff, une bonne histoire. Et après, voilà, le jeu, c'est ça, c'est de s'amuser à des choses très potaches et des choses très burlesques. Il joue sur le visuel, il y a beaucoup de gags qui sont sur le dialogue aussi. Et puis il y a à la fois des couples qui sont des couples qui se rencontrent parce qu'ils sont devinent qu'ils sont connectés, et d'autres qui sont des couples qui sont dans une routine et qui ont peut-être envie d'essayer des choses. Il y a des jeunes qui essayent mais qui ont envie de copier le porno mais qui comprennent pas comment ça marche. Enfin voilà, je trouve que tout ça ça fait un peu notre sexualité, et ça peut être raconté presque comme un fait divers parfois, enfin c'est pas aussi grave que ça, mais comme une histoire on s'est séparé à cause de ça, ou ça peut être raconté comme un gag. En fait, la manière dont on prend notre vie, notre faculté de rire de nous-mêmes va faire que on va s'offrir une vie plus ou moins cool ou plus ou moins tragique.
Ça te vient d'où ça, tu penses, cette façon à toi de voir les choses, parce que t'as l'air d'être un peu comme ça.
Je pense que c'est Ça vient de l'enfance. Moi, je suis arrivé. Mon papa était flic et il rentrait à la maison et il racontait des histoires terribles parce qu'il il avait travaillé à la brigade criminelle, à la brigade des mœurs. Enfin, donc il rentrait puis il racontait à ma mère ce qu'il avait fait dans la journée. Ça pouvait être des levées de corps, des choses. Et moi, j'avais 6 ans, 7 ans, j'écoutais ça et ça me donnait une image du monde extérieur absolument terrifiante. Et donc, je me suis inventé toute une... Je me suis créé des armes avec l'humour pour traverser... J'aime bien cette phrase qui dit « L'humour, c'est un petit garçon qui traverse une cave sombre en sifflotant. » Et c'est un peu ça. J'avais l'impression que la vie, ça avait l'air d'être une cave sombre, hyper flippante, avec des gens dangereux partout, et que j'allais traverser en sifflotant pour me donner une contenance. Et en fait... Assez vite, j'ai développé ce genre de truc. Je l'ai testé sur mes copains. Quand il y avait des trucs qui faisaient peur, j'en faisais un sketch, une comédie, un gag. Et j'ai vu que ça marchait bien. Et l'approbation des autres et le fait de faire rire, ça me rassurait moi-même. Donc j'ai développé ce qui est une forme de résilience, quoi, de prendre la vie en essayant de rigoler, parce que je pense que j'ai un naturel plutôt grave.
Ah, de base, tu penses?
Ouais. Donc, je c'est une gymnastique, si tu veux. Mais comme souvent, beaucoup d'humoristes, gens, si on parle vraiment avec eux, ça part vite dans du pathos. Mais cette gravité fait qu'on a développé, cette faculté de tourner les choses en dérision.
Donc en fait, il y a beaucoup de lectrices de Mademoiselle qui vont écouter ce podcast et qui sont jeunes et qui démarrent dans leur carrière. Il y a une anecdote où en fait, quand t'étais tout jeune et que ton premier job, en fait, c'était justement, on t'avait donné un dessin à faire très réaliste et t'avais pour une BD. Et en fait, t'avais dit que t'allais pas le faire parce qu'en fait, t'allais avoir envie de crever. Et t'as laissé tomber ce projet. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu, parce que je trouve que c'est hyper courageux de ta part d'avoir décidé alors que c'était ton premier taf potentiel.
Ouais, c'était une période où je trouvais pas de boulot, donc je faisais du dessin, mais tous mes projets, tout ce que j'envoyais aux éditeurs me revenait avec la lettre type « Merci, mais ça ne nous intéresse pas ». Et je commençais à me dire, mais comment je vais bouffer, moi? Alors j'avais des petits boulots de dessin, mais je faisais vraiment c'était du bricolage et je gagnais 3 francs 6 sous. Alors j'étais jeune, j'avais pas d'enfant, ça allait, mais ça commençait à m'inquiéter un peu. Et parmi tous les projets que j'avais envoyés, j'avais fait un dossier réaliste avec un dessin réaliste, des personnages comme ça, que j'avais envoyé à un grand éditeur parisien. Et là, ils me contactent et ils me disent, ah, on aime beaucoup votre dessin, ce dessin là donc j'étais, ah bon, bizarre, je pensais que c'était... Et on a Serge Letendre qui a un scénario pour vous. Et Serge Letendre, à l'époque, c'était le scénariste d'une très grande série qui s'appelle La Quête de l'Oiseau du Temps, qui est une magnifique série de science-fiction emblématique de la BD, qui est parue entre la fin des années 70 et la fin des années 80. Et donc, Serge Letendre a un scénario pour moi. Donc, j'avais 23 ans, 24 ans, j'étais là, waouh! C'est génial, quoi. Et là-dessus, je reçois le scénario. Et c'était un scénario pas incroyable de Serge Letendre. Il l'avait pas écrit pour moi. C'est un scénario qu'il avait écrit, que première personne avait fait, qu'ils avaient dans leur tiroir et qui était destiné à ça. Et c'était une espèce de pseudo-enquête autour du FBI, d'assassins, du président des États-Unis. Enfin, ça ressemblait à la fois un peu à 13, à ce genre de truc un peu parano de post-guerre froide. Et je commence à dessiner ça et je me dis, mon Dieu, mais tout ce que je devais dessiner me pesait, quoi. Je devais dessiner des bureaux du FBI, des bagnoles, tout ce que je déteste, des bretelles. Il y a un moment, il y avait une poursuite sur un périph. Je dis, vraiment tout ce qui me mettait en échec. Et je dessinais ça, j'étais là, je suis malheureux. Et je me dis, mais ok, c'est mon seul job, je vais le faire. Mais si ça marche et que dans 20 ans, je suis en train de faire le tome 17 de cette série, en fait, ma vie, ça va être de la merde. Et donc, j'ai pris mon courage de main, j'ai écrit à Serge Le Tendre. Et je lui ai dit, je suis hyper flatté que vous ayez pensé à moi. Alors qu'il n'avait pas pensé à moi, je pense que lui-même ne savait pas qu'on m'avait envoyé ce truc. Mais je ne vais pas pouvoir le faire parce que ce n'est pas, c'est pas moi cette histoire. Et je sens que ça va me rendre malheureux. Et il m'a écrit une petite carte postale hyper chou. Il me dit, mais t'as raison. On fait un métier de plaisir. Il ne faut pas s'emmerder, il faut faire quelque chose qui nous plaît. Parce que sinon, tu vas t'ennuyer et tu vas ennuyer tous tes lecteurs. Et je pense que ça, c'est vraiment une règle, que ce soit un métier artistique ou autre. Hein, quand on fait quelque chose qui nous pèse, et ben ça pèse sur tous les gens qui sont autour de nous, ça pèse sur notre entourage parce qu'on se plaint, et ça pèse sur ceux qui vont manger votre bouffe si vous êtes restaurateur, ou vos croissants si vous êtes boulanger, ou lire vos livres si vous êtes auteur. Donc le cœur léger, j'ai laissé tout ça, et la semaine d'après je crée Titeuf. Donc je suis très reconnaissant à Serge Le Tendre de cette petite carte postale, parce que s'il m'avait dit mais pour qui tu te prends, tu te rends compte que la chance que t'as, on te propose ça, je l'aurais peut-être fait en fait. Je serais peut-être parti dans cette histoire et je me serais retrouvé à faire des tomes et des tomes d'un truc qui était pas moi quoi, qui me convainquait pas tellement.
De bureau et de voiture quoi.
De bureau et de bagnole, ouais.
T'as dit une phrase dans une interview, t'as dit le seul fan que t'auras toute ta vie, c'est toi. Je trouve que c'est vachement, c'est mm-hmm. une chouette phrase en fait, parce que globalement, même si tes fans demain s'en vont, t'as un truc un peu de finitude comme ça potentiel aussi, je pense, en toi. En fait, ça peut changer demain, ça peut partir.
Bah, je pense qu'il y a rien qui dure. Il faut pas croire qu'on va durer toujours. Hein. Autrement, ce serait toujours Victor Hugo qui serait en tête des ventes et il y aurait pas de place pour des nouveaux auteurs. On peut faire quelque chose qui est énorme, mais ça va disparaître. Il y a un moment, parce que ça correspond à un temps, à une période, à une société. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Tu vois, j'ai fait des Titeuf. Hein. Quand ça arrive, ça, dans une vie, c'est déjà super dans la vie d'un auteur. Et plein d'autres projets où j'ai eu des lecteurs. Donc, je suis très, très reconnaissant de tout ça. Mais j'ai été pendant longtemps mon seul lecteur. Donc... Et ça allait, tu vois, je veux dire, j'ai survécu. Donc si ça devait revenir, c'est pas dramatique quoi, c'est pas la mer à boire. Mais c'est pour ça que c'est important d'aimer ce qu'on fait. Parce que si on fait ce qu'on fait en l'aimant pas mais en se disant je le fais parce que ça va marcher, alors là c'est glauque, parce que si ça marche pas, il y a vraiment personne qui vous aime, et nous-mêmes on nous aime pas, donc c'est une vie affreuse. Et moi, je sais que quand j'avais fait une bonne page, quand j'avais fait quelque chose que je trouvais bien, j'étais content, c'était une bonne journée. Après, je l'envoyais aux journaux, personne ne l'aimait, je me dis, bon, bad mood. Mais en même temps, elle est cool, cette page, quand même. Il y a des pages, j'ai des projets refusés de cette époque que je continue à regarder avec une certaine tendresse. Je trouve qu'ils sont pas mal. Évidemment, ils sont bourrés de défauts aujourd'hui, ils me sortent par les yeux, mais je trouve qu'à l'époque, dans l'instant où ils ont été faits, j'ai l'impression que j'avais donné le meilleur de moi.
Merci beaucoup, Zep.
Merci à toi.
C'était trop bien.